France Culture. Il. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Donald Trump n'a pas obtenu le prix Nobel, cela ne l'empêchera pas de recevoir demain, en principe, et à juste titre, un accueil triomphal à Jérusalem pour avoir réussi à arracher à Benjamin Netanyahou et au Hamas un début de processus de paix à Gaza. Quelles que soient les récriminations et sans doute le désir de vengeance du président américain vis-à-vis de la Norvège qui attribue le prix tant convoité, son influence sur l'évolution politique de nos pays européens est de plus en plus évidente à la mesure de l'attrait d'un modèle ouvertement illibéral, celui de l'homme fort qui ne s'embarrasse guère de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, le soutien trumpiste au mouvement d'extrême droite, sinon l'ingérence pure et simple, sont désormais avérés. Au nom d'une conception élargie de la liberté d'expression, à condition qu'elle corresponde à leur idéologie, voilà le vice-président J.D. Vance, Elon Musk et ses algorithmes, les fondations conservatrices américaines et leurs moyens financiers qui rivalisent d'ambition pour accélérer cette vague populiste qui, un peu partout en Europe, porte l'adhésion d'une opinion publique de plus en plus désabusée vis-à-vis du rituel démocratique et des partis traditionnels. D'un pays à l'autre, l'immigration est le thème qui accélère la radicalisation sur fond d'inquiétudes économiques, sociales, culturelles, d'un sentiment de déclassement des classes moyennes, le tout exploité par un discours qui balaie tout argument moralisateur et enflamme les réseaux sociaux au détriment des chiffres et des faits. Populisme de droite et bien sûr populisme de gauche. Aux Pays-Bas, dans 15 jours, les élections législatives vont se jouer sur l'immigration et sur cet autre marqueur social, l'environnement. En République tchèque, le Premier ministre, nouvellement élu, un homme d'affaires qui arbore une casquette rouge à la Trump, va devoir s'allier à un nouveau parti d'automobilistes hostiles au contrôle des émissions carbone. De la Pologne à la Roumanie, tout l'arc de l'Europe centrale vibre aux accents d'un souverainisme retrouvé à l'abri de la protection américaine et des subventions européennes. Plus à l'ouest de l'Europe, voilà l'Italie de Giorgia Meloni érigée en modèle, tant la présidence du Conseil manœuvre habilement entre l'idéologie de droite dure et les contraintes d'une économie qui a besoin d'immigration. Et beaucoup plus loin, voilà qu'au Japon, pris de bouffées xénophobes, le parti conservateur devrait en principe la semaine prochaine promouvoir à la tête du gouvernement une femme, c'est une première, située très à droite sur l'échiquier politique. Au moment où la France se noie dans une crise sans précédent, comment analyser cette fièvre populiste qui semble gagner tant de démocratie? Les mêmes causes produisent-elles partout les mêmes effets? L'offre populiste est-elle partout la même? Quels que soient les différents modes de scrutin et la pratique très inégale du compromis, voit-on le même décalage entre le discours des élites et les aspirations des électeurs, le même décrochage des jeunes, une même incapacité à revivifier le système parlementaire? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Pauline Schnapper. Vous êtes professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po Paris, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Jacques Rupnik, directeur de recherche émérite aux séries de Sciences Po. Et Hans Stark, professeur de civilisation allemande contemporaine à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. Jacques Rupnik, je commence avec vous puisque c'est la dernière élection à laquelle nous avons assisté en République tchèque et on a vu donc cet homme d'affaires qui avait déjà été Premier ministre, Andrej Babiš, remporté dès le premier tour 35%. Je vais évoquer tout au long de cette émission des chiffres qui nous font évidemment rêver, donc 35% au premier tour. Il doit maintenant construire une coalition. Évidemment, là, ça se complique.
Ça se complique, même si, vu de Paris, les choses oui. peuvent paraître relativement simples, car dans les jours qui ont suivi l'élection, Babiche, donc le vainqueur de l'élection, s'est trouvé deux acolytes des populistes de la droite dure, eurosceptiques. Alors, ils sont assez différents. Il y en a un qui dirige le parti Liberté et Démocratie Directe. C'est un parti qui veut un référendum sur n'importe quel sujet important, à commencer par l'appartenance à l'Union européenne ou à l'OTAN.
Et ça, c'est dirigé par ce Japonais naturalisé.
Voilà. Alors, le plus grand défenseur de la souveraineté et de l'identité tchèque s'appelle Tomio Okamura. Et c'est un Japonais qui voilà dont l'installation.
Et ça prouve que l'intégration des immigrés peut marcher.
Ça prouve que l'intégration, mais lui en quelque sorte considère son cas comme une exception et il est absolument hostile à toute nouvelle immigration qu'il considère comme une menace pour l'identité tchèque. Il y a l'autre acolyte qui est le parti des motoristes donc voilà, c'est un certain Tourek qui était un voilà, il faisait des courses d'automobile. Il n'a absolument aucun passé politique sérieux. Il a été élu lors des dernières élections européennes et il fait un score, mais uniquement sur le thème, il y en a assez du Green Deal, des contraintes européennes, etc. Bref, il aime la voiture à l'ancienne, avec beaucoup de fumée, beaucoup de bruit. Et ça, ce sont les deux partenaires. Alors, Babiche, initialement, pensait qu'ils seront là pour faire de la figuration, parce que ils ont des scores assez faibles. Il y en a un qui fait 7,7 et demi, l'autre qui fait 6 et demi. Bref. Mais ils ont réclamé des postes et ils sont en train d'obtenir, semble-t-il, les affaires étrangères pour les motoristes et la défense pour le parti de Monsieur Okamura. Bref, on imagine, donc ça c'est pour l'ambiance aux prochaines réunions du Conseil européen des affaires étrangères. Il y aura là, du côté tchèque, une rupture avec le gouvernement précédent qui était très pro-européen et surtout très engagé dans le soutien à l'Ukraine.
Et quel est le premier carburant, Jacques, dans cette cristallisation ?
Il y a ce que l'on observe sous une forme relativement atténuée côté tchèque, mais plus forte ailleurs encore, il y a une espèce de dégagisme, volonté de tourner la page, se libérer des contraintes, et ce qui paraissait une aberration il y a quelques années, par exemple, Orban était considéré
le Hongrois donc
le Hongrois était considéré comme une anomalie, et Orban aimait à se considérer comme un précurseur lors de l'élection de Trump en 2016, il jubilait, il disait, mais il avait eu cette formule, avec le Brexit, on a entrouvert la porte. Avec l'élection de Trump, on a franchi le seuil. La non-démocratie libérale s'est terminée.
Et avec Trump 2, évidemment.
Quelle journée, il a répété. Donc il exultait. Alors évidemment, il y a Trump 2. Alors là, le Trumpisme à l'Est s'est libéré. Et Babiche, maintenant c'est Babiche 2 aussi, c'est plus le même qu'avant. Avant, c'était l'entrepreneur plus modéré. Là, il a durci, il est plus libéré dans son discours trumpiste, disons-le comme ça. Avec quand même une réserve, c'est un homme d'entreprise, beaucoup plus pragmatique. C'est pas un idéologue comme Babiche, comme Orban ou Kaczynski en Pologne. Et voilà, c'est un populisme entrepreneurial. Un entrepreneur qui achète des médias devient entrepreneur médiatique, puis ensuite devient entrepreneur politique. Donc c'est plutôt le parcours Berlusconi, je dirais, trumpisé maintenant. Pas vraiment l'idéologue qui veut en découdre avec l'Europe ou le système occidental. Il veut surtout le pouvoir, pour lui.
Hans Stark, partons avec vous en Allemagne, où l'on voit là l'idéologie d'extrême droite avec l'AfD, donc ce parti qui a fait irruption dans le paysage politique allemand, qui était habitué à un rythme beaucoup plus lent. Et on voit de sondage en sondage que ce parti grimpe à peu près partout et plus seulement dans les régions de l'Est.
Oui, tout à fait. L'AfD grimpe tout doucement, mais de façon constante, et c'est même extrêmement inquiétant, car ce parti qui a été fondé en 2013, qui a eu un peu moins de 5% aux élections de 2013, arrive à 12% en 2021 aux élections de 21, aux élections de 25 à 20%, et il est aujourd'hui autour de 25 à 27% dans les sondages. Ce qui veut dire qu'il a plus que doublé son score, si on prend les sondages comme étant un score, par rapport à 2021. En 4 ans, ça c'est absolument considérable. Ensuite, on voit aussi donc que tous les instituts de sondage en Allemagne le donnent soit en coude à coude avec les chrétiens démocrates, soit au-dessus maintenant. C'est-à-dire l'AfD est en train de devenir à l'échelle nationale le premier parti en Allemagne, et ça c'est quelque chose qui doit, à mon avis, quand même créer pas mal de panique parmi les partis de la coalition actuelle, d'autant que si il devait y avoir des élections en Allemagne ce dimanche, les chrétiens démocrates, qui donc gouvernent avec les sociaux-démocrates, devraient s'ouvrir au parti des Verts. Il n'y aura pas d'autre possibilité pour gouverner, il n'y aura pas d'autre parti entre guillemets de l'arc républicain en Allemagne disponible, parce que les libéraux avec lesquels les chrétiens démocrates ont gouverné pendant des décennies, ils s'enfoncent dans les 3%, donc ils sont très en dessous du seuil qui permet à un parti d'accéder au Parlement allemand. Donc le libéraux sont maintenant hors-jeu, en quelque sorte. Donc, il reste plus que les Verts. Et je vois mal les chrétiens démocrates à s'ouvrir à deux partis de gauche dans une
coalition. Mais en principe, pardon Hans, je vous interromps, les élections n'auront lieu que dans 3 ans.
Ils n'auront lieu que dans 3 ans, ce qui est la bonne nouvelle, entre guillemets. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais en attendant, les chiffres sont extrêmement mauvais, d'autant qu'il y a aussi des élections régionales. Bon, la politique régionale ne détermine pas de la politique étrangère de l'Allemagne, ça c'est sûr. Mais on constate qu'il y aura en 2026 plusieurs élections régionales en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, l'AfD est à peu près 35 à 40%. Donc en Allemagne de l'Est, ils ont des scores qui sont ceux de, dans les sondages en tout cas, du Rassemblement national en France.
Et il y a aussi des Länder plus à l'Ouest, où ce qu'on avait l'habitude d'appeler le cordon sanitaire peut craquer selon les rapports de force locaux, en fait.
Alors, je ne sais pas si le cordon sanitaire peut vraiment craquer, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'AfD, sur l'échelle Richter du populisme de droite, est beaucoup plus extrême encore que le Rassemblement national en France. D'ailleurs, ça se reflète aussi au niveau de leur répartition dans les groupes parlementaires du Parlement européen. C'est un parti, on en parlera peut-être plus tard, qui préconise ouvertement la sortie de l'Union européenne. Donc, ils sont dans la logique du Dexit. Et évidemment, Dexit se veut aussi sorti de la zone euro. Donc, c'est une rupture totale. Et le parti chrétien-démocrate, dans l'ADN, c'est la politique de Konrad Adenauer. Donc, la politique d'ancrage à l'Ouest et la construction européenne. Comment est-ce que les chrétiens-démocrates, sans se renier complètement, peuvent former une alliance avec l'AfD? Je ne le vois pas, d'autant qu'il n'y a pas au sein de la CDU quelque chose qui serait équivalent au phénomène de Tea Party aux États-Unis ou au phénomène MAGA. Donc pour l'instant, les chrétiens démocrates sont tout simplement déboussolés par rapport à la montée incessante dans les sondages de l'AfD et puis aussi au niveau des élections.
Pauline Schnapper, partons au Royaume-Uni. Et là, on voit que c'est le parti du Brexit, Farage, qui est très truculent, surtout pour un homme politique british. Et là, on voit que son parti, donc, réforme, encore une fois, s'il y avait des sondages aujourd'hui, recueillerait 31% des intentions de vote contre 20% au Parti travailliste qui est au pouvoir et 16% au Parti conservateur. Et on sort au Royaume-Uni d'une saison de congrès politique, puisqu'ils ont cette tradition, d'abord le Labour et ensuite les Tories, et on a l'impression que d'un côté comme de l'autre, ils voient ce phénomène avec éberlument.
Oui, tout à fait. On a un phénomène un tout petit peu comparable à ce que Hans vient de décrire en Allemagne, c'est-à-dire ce parti finalement récent. L'ancêtre de Reform aujourd'hui, c'est UKIP, créé par Nigel Farage dans les années 90, au moment du traité de Maastricht, et qui n'a pas été pris très au sérieux. Faisait que quelques pourcents de voix aux élections, notamment à cause du mode de scrutin, ça ne leur donnait aucun élu, et qui a en réalité utilisé la plateforme du Parlement européen, élu à la proportionnelle, pour progressivement faire parler lui. Et puis bien sûr, le grand moment de ce parti de Nigel Farage, c'est le référendum sur le Brexit, il y a 10 ans. Mais ce parti a été capable, alors en changeant de nom 2 fois, de rebondir malgré le Brexit ou malgré l'échec du Brexit, en prenant ce nouveau thème, nouveau entre guillemets, de l'immigration, et à profiter de l'affaiblissement continu du Parti conservateur au pouvoir entre 2010 et 2024.
Oui, on ricanait parce qu'ils avaient eu 3 premiers ministres en moins d'un an.
Oui, et oui.
Maintenant,
on ricane moins.
Voilà. Enfin, eux ricanent, pour être plus précise.
Reform, aujourd'hui, profite de cet affaiblissement du Parti conservateur et de la situation économique et sociale très, très dégradée à laquelle fait face le gouvernement travailliste depuis un peu plus d'un an et sur laquelle il a beaucoup de mal à agir.
Donc ce sont bien là les carburants, en quelque sorte.
Le principal.
L'immigration et la situation, la dégradation économique et sociale qui est assez similaire, il faut bien le dire, à la nôtre.
Oui, qu'on pourrait presque faire remonter à la crise de 2008. D'une certaine façon, le Royaume-Uni ne s'est toujours pas remis de la crise de 2008 et des politiques extrêmement dures d'austérité qui ont été imposées entre 2010 et 2016.
Et le Brexit, là je voyais, il n'y a plus que 32% des Britanniques qui estiment que c'était une bonne idée.
Le Brexit et le Covid, enfin tout ça se mélange, on a évidemment du mal, les Britanniques en tout cas ont du mal à différencier ce qui relève de ces facteurs, mais le résultat, c'est effectivement plus de 30%. Dans les sondages aujourd'hui, le Parti conservateur qui s'est totalement effondré et le Parti travailliste qui est très à la peine, alors qui n'avait fait que 34% des voix en juillet 2024, donc c'était déjà très faible pour un parti qui gagnait les élections et qui aujourd'hui est à peine au-dessus de 20%.
Dominique Régnier, la Fondapol, donc l'institut que vous dirigez, a publié l'an dernier une étude très intéressante avec le titre qui, véritablement, aujourd'hui encore, pèse de tout son poids, ouvrez les guillemets, les Européens abandonnés au populisme. Et vous aviez, à l'époque, étudié les 27 pays de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni. Et dans cette étude, dont je recommande encore la lecture, vous soulignez la contradiction, en fait, entre un enracinement des valeurs et des idées européennes, pour simplifier, et la remise en cause du système démocratique à l'échelle nationale un peu partout. Donc comment expliquez-vous aujourd'hui, et même quand on essaye de faire abstraction, encore une fois, de ce qui nous obsède maintenant en France, comment expliquez-vous ce décalage ?
Alors, finalement, ce que nous avons testé à partir de 28 sondages nationaux, c'est ce que nous avons fait, en faisant une focale sur les électeurs des partis populistes, dont les plus nombreux sont des partis populistes de droite.
Mais il y a aussi, évidemment, les populistes de gauche et d'extrême gauche.
Eh bien, ces électeurs, quand on leur pose des questions sur l'attachement à la démocratie, au pluralisme partisan, à la liberté de choisir, à la sincérité du scrutin, à la liberté de la presse, etc., sont aussi attachés que les autres à ces valeurs et à ces mécanismes. Ils ne sont pas moins attachés. Il n'y a pas, par exemple, dans les réponses qu'ils font, on ne mesure pas la montée d'une idéologie autoritaire ou antidémocratique. Ce sont des électeurs, c'est l'interprétation que je fais, sont des électeurs abandonnés au sens où ils n'ont pas été entendus quand ils ont exprimé avec les moyens qui leur étaient donnés le vote pour des partis de gouvernement, des partis modérés. Ils n'ont pas été entendus dans leurs préoccupations, ils n'ont pas reçu de réponse. Et là, on voit effectivement de façon très importante la question de l'immigration et la question de ce qu'on appelle l'identité. Bon, moi je parle plutôt de patrimoine immatériel, mais on se comprend peut-être avec ces mots. Et finalement, c'est une classe politique, une classe dirigeante dans chacun des pays qui n'a pas été capable de répondre à des attentes. soit ils ont été stigmatisés pour leurs attentes mesurées. C'est assez compliqué, parce que ça s'est pas vraiment exprimé. Il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu de référendum, etc. Donc on a des élections, on les interprète, on a tous fait cela. Il y a des sondages, on les interprète, mais ils n'ont pas été entendus formellement. Ils sont...
Et puis c'est très souvent contradictoire, il faut bien dire.
Bien sûr, naturellement. Mais il y a pas, par contre, il y a un thème très important qui fait leur attachement à l'Europe. Parce qu'ils ne sont pas anti-européens, ces gens-là. Ils ne sont pas contre l'euro, jamais. Ils sont à la recherche d'une puissance publique capable de les, protéger et de les projeter dans le monde nouveau. Et ils ne la trouvent pas. C'est une demande européenne. C'est ça la tragédie de la situation. Il ne faut pas confondre ces électeurs avec, les dirigeants des partis. Je pense que c'est l'erreur que nous faisons le plus souvent. On prend le discours tous ces dirigeants des partis, et on considère que leur discours est une bonne description de la mentalité ou du système d'opinion de leurs électeurs. Eh bien non, simplement les électeurs font avec ce qu'ils ont, et ils n'ont pas grand-chose sous la main.
Mais là, il y a aussi évidemment la simplification et l'accélération des réseaux sociaux.
Absolument.
Et on voit l'aspiration à l'homme fort. Alors, donc, il y a Vladimir Poutine, torse nu, galopant dans la steppe, et évidemment, Donald Trump.
Oui, mais sur la question de l'homme fort, je suis partagé, parce que je ne vais pas embêter les auditeurs avec les détails, mais quand on pose la question, moi j'ai fait les deux, j'ai utilisé les deux systèmes. Si je pose la question, non pas de l'appréciation de différents systèmes politiques parmi lesquels il y a l'homme fort, où là, on a un niveau élevé d'approbation de l'homme fort. Mais comme on a un niveau élevé des autres systèmes, si je demande aux électeurs et aux personnes interrogées de choisir, l'homme fort dégringole. La préférence, elle va pour le système parlementaire, pour la division des pouvoirs, pour la séparation des pouvoirs. En réalité, s'il faut choisir, les Européens choisissent encore le modèle qui est celui de l'Union européenne. Mais ils attendent de ce modèle, avant de l'abandonner, je crois, avant de le délaisser, et c'est ce qui va se passer, on peut le craindre, mais ils attendent de ce modèle des réponses en termes de puissance publique effective dans ce monde-là, dominé par des hyperpuissances à la fois, je dirais, nationales ou systémiques, comme les réseaux sociaux, etc. Et ces réponses ne venant pas, je pense qu'ils se comportent la mort dans l'âme d'une façon différente qui va les amener vers quelque chose de beaucoup plus, dur. Et j'ajoute, Christine Lecrainte, que puisqu'on a déjà cité l'AFD, 2013, la création de l'AFD, c'est curieux parce que en 2013, l'AFD voit le jour, Vox en Espagne, Chega au Portugal, la même année tout ça. Trois pays qui jusqu'ici étaient un peu les exceptions dans la description du paysage européen, du populisme. Il y a comme ça des vagues qui font que maintenant, plus aucun pays européen n'est à l'abri de tout cela. Et quand on regarde, on a fait ce calcul, on va le publier, mais les dernières élections législatives qui ont eu lieu depuis 2021, 2021 et jusqu'à 2025, la moyenne électorale au premier tour du vote populiste de droite, c'est en gros 29%. La moyenne du vote populiste de gauche, c'est 12%. Ça fait un vote populiste total de 41%, grosso modo, à l'échelle de l'Europe. Et je parle d'élections législatives nationales. Ce chiffre, 35-40, on le trouve nationalement ou au niveau de l'Europe, partout. Et si j'ajoute à ça l'abstention, on atteint 58% des électeurs, en moyenne en Europe, qui sont dissidents, en fait. Donc le système là, ne fonctionne plus. Il est plus marqué ici que là, mais malgré tout, il est désormais partout très significativement présent. Et ni les modes de scrutin, ni rien du tout, ne parvient à empêcher cette espèce de bascule qui se produit.
Cette bascule, Valérie Niquet, avec vous, on va partir vraiment beaucoup plus loin, dans une forme d'exotisme, parce qu'il faut bien dire, et on a tort, on s'intéresse très très peu à la vie politique du Japon. Et là, surprise, on voit surgir une dame qui aime se comparer à Margaret Thatcher, donc évidemment on va l'appeler la dame de fer, parce que ça c'est le cliché auquel elle n'échappera pas, mais on l'appelle aussi la talibane, et elle est carrément révisionniste, ce qui, au Japon, est quand même lourd de sens. Donc, Madame Takaichi, qui a été, en fait, portée au sommet du parti libéral-démocrate, qui, en fait, gouverne le Japon depuis deux ou trois générations, et qui, en principe, devrait être nommée première ministre en milieu de semaine prochaine.
Oui, elle doit être. Elle a été donc désignée comme la nouvelle présidente du PLD, le Parti libéral-démocrate, qui est au pouvoir quasiment sans discontinuer au Japon depuis le milieu des années 50. Donc, la politique japonaise avait une caractéristique très. C'était plutôt ennuyeux, effectivement. Et là, tout d'un coup, les choses changent. Elles changent pour plein de raisons qui sont là de circonstances, parce qu'on est encore en train de se demander. Si elle pourra véritablement être élue ou choisie comme Premier ministre par le Parlement, la décision se fera la semaine prochaine. Elle a sa position, ses positions très à droite et c'est quelque chose. Le PLD est un parti qui a fonctionné jusqu'à maintenant grâce à sa très grande capacité de combinaison diverse avec des factions qui vont... peut-être pas la droite du Parti Socialiste en France, mais en tout cas des positions très modérées, notamment sur les questions historiques et sur
donc en fait une culture du compromis, parce qu'on en revient toujours à cet ingrédient qui...
Et une faction beaucoup plus à droite qui était représentée peut-être d'une manière un peu abusive par l'ancien Premier ministre Abe, dont Takaichi est supposé être la plus proche. Elle est soutenue par des gens qui sont encore plus à droite qu'elle, d'ailleurs. Et résultat, la coalition habituelle qui faisait fonctionner le système japonais, c'est-à-dire le PLD plus un parti bouddhiste qu'on pourrait comparer aux chrétiens-démocrates, eh bien, a éclaté. Donc, on verra ce qui se passera. Mais ce qui est intéressant pour comparer avec tout ce qu'on a dit, c'est pas tellement la politique interne japonaise qui est assez, ressemble à d'autres, mais pas forcément passionnante, c'est que, pour la première fois, la droite, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, au Japon, était représentée d'une manière tout à fait normale au sein du PLD. Les positions du PLD sur beaucoup de sujets, dont l'immigration et le rôle des femmes, sont bien plus à droite que les positions de Marine Le Pen, par exemple. Donc c'était quelque chose qui était en place et qui s'exprimait de cette manière dans le système politique japonais. Ce qui s'est passé, c'est que lors des dernières élections, on a eu une montée rapide, même s'il ne représente pas du tout une majorité dans la population, d'un nouveau parti qui s'appelle le Sanseito, dirigé par un garçon plus jeune avec des femmes autour de lui, qui manie très bien les réseaux sociaux, contrairement aux vieux politiciens japonais qui ont quand même du mal avec ce genre de... Donc, qui attire la jeunesse, qui a été créé au moment du Covid contre les vaccins, contre le confinement, qui était très très dur au Japon, il faut dire, même s'il n'était pas officiel. Qui, comme chez nous, exprime une sorte de ras-le-bol contre un système politique qui ne répond plus aux aspirations, et notamment pas aux aspirations de deux groupes assez éloignés, la jeunesse urbaine, qui est confrontée, et c'est nouveau au Japon, à une crise économique, à une inflation qui maintenant se font sentir, alors que jusqu'à maintenant, on parlait du Japon stagnant, endetté, mais enfin, on le sentait pas trop, alors que là, vraiment, ça commence à se sentir. Et puis, un électorat très âgé, le Japon est un pays qui vieillit d'une manière accélérée, accroché à des valeurs très traditionnelles qui vont du refus absolu d'une éventuelle impératrice à, enfin bon, il faut que le Japon reste le Japon, les valeurs, et tout ça se coalisant dans une chose assez baroque qui est l'opposition aux étrangers, alors qu'il n'y a pratiquement pas d'étrangers résidant au Japon, à peine 3% de la population, dont plus de la moitié sont des Chinois ou des Coréens installés depuis des générations. En revanche, il y a beaucoup de touristes. Et c'est la visibilité des touristes qui a créé ce sentiment tout fout le camp. Le Japon n'est plus le Japon, et se précipitant vers le Sanseito, le parti de droite, et le PLD a décidé de suivre. Et il a, en faisant ceci, sabordé ce qui lui permettait, depuis des décennies, de gouverner.
Et donc madame, pardon, je vous interromps, madame Takaichi, dont le fief électoral, je crois, est à Nara, donc près de Kyoto, des temples somptueux, et beaucoup de biches et de daims. Et donc, elle a fait campagne en disant ces affreux touristes étrangers qui osent faire du mal aux biches.
Oui, alors ça, c'est son côté trumpien. Effectivement, elle a accusé les étrangers de donner des coups de pied aux biches, qui sont parfois très agressives, il faut dire. Et elles sont très... mais ce qui est important, c'est que oui, Nara, en plus, c'est une ville très traditionnelle. C'est qu'en prenant ces positions assez provocatrices ou radicales, elle a mis à bas, en fait, ce qui permettait au PLD, y compris dans ses factions les plus à droite, de se maintenir au pouvoir, en fait. Donc là, vraiment, on se demande, certains disent que finalement, c'est la fin du système qui existait, la fin du PLD, un éclatement possible du PLD. Et ce qui m'inquiète pour le Japon, c'est que le Japon, il y a des tas d'enjeux avec lesquels on peut être d'accord sur la sécurité, le développement des capacités en matière de défense, surtout avec un Trump qui est sur le retrait. Mais le Japon, à mon avis, n'est pas la France, ni l'Europe, ni l'Italie. En termes de résilience politique, n'a peut-être pas un niveau qui lui permette d'aboutir à des solutions qui ne seraient pas... Enfin, c'est assez inquiétant, en fait, ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a eu une forte participation ?
Alors, il n'y a jamais une très forte participation au Japon. Là, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, effectivement, se sont mobilisés dans un système électoral très complexe et ont beaucoup choisi ce nouveau parti et les personnes âgées qui, traditionnellement, votaient pour le PLD, mais se sentent aujourd'hui abandonnées.
Dominique Régnier, à faire ce tour de table très géographiquement très élargi, on se rend compte que les ingrédients de ces poussées populistes sont à peu près partout les mêmes. Et le premier ingrédient, c'est l'immigration, c'est-à-dire l'étranger, et aussi l'environnement qui devient un marqueur de l'autre côté, en quelque sorte. Le mode de scrutin, très différent encore une fois, en Europe centrale, au Royaume-Uni en particulier, jusqu'à quel point est-ce que cela peut avoir une incidence sur cette déconnexion entre les électeurs, enfin ceux qui se dérangent pour aller voter, et les élites politiques censées les représenter?
Ce que nous pouvons observer, et mes collègues ici présents le feront, je pense, de la même façon, c'est que les pays dont nous parlons ont tous un mode de scrutin qui obéit à quelques principes communs, mais qui se distingue de chaque autre par des modalités d'application. La proportionnelle domine beaucoup ces pays-là, mais enfin, il y a des modalités d'usage de la proportionnelle. Le scrutin majoritaire, il y a la modalité française, il y a la modalité britannique qui est célèbre, avec des caractéristiques très fortes, qui semble faire, pour le Royaume-Uni, barrage... Au populisme. Au début, moi, quand mes premiers travaux sur le populisme, on ne croyait pas possible qu'un parti populiste voit le jour ou se développe, comme Pauline Schnapper le disait tout à l'heure. Ça paraissait vraiment invraisemblable. Bon, nous avons dit où nous en sommes aujourd'hui. Et finalement, aucun mode de scrutin ne parvient contenir la poussée populiste dès lors qu'elle atteint un certain niveau. Et même à partir d'un certain niveau, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un ressort qui se met à fonctionner et qui propulse les populistes au pouvoir. On le voit en France. Le mode de scrutin était plutôt hostile au Front National. Aujourd'hui, il promet presque une victoire au Rassemblement National. Et peut-être, mais c'est Pauline Schnapper qui est spécialiste, peut-être au Royaume-Uni, on observe ce même mécanisme. Et c'est cet aspect continental. Je ne dirais pas ça pour le Japon, parce que je ne peux pas le dire, mais à l'échelle européenne, c'est certain, il y a un aspect continental, ce sont les mêmes facteurs, le vieillissement démographique. Ce que disait Valérie Niquet sur le Japon, c'est vrai en Europe. Le fait que la jeunesse est assignée dans des positions de paupérisation, de précarisation, avec une absence claire sur le futur, quand ça n'est pas bouché, avec des générations qui ont un peu occupé toutes les position de rente, enfin, ce sont des traits communs. Et l'immigration, vous avez raison, mais moi je voudrais souligner quand même que lorsqu'on fait des études sur la perception des étrangers qui sont confrontés à la guerre et à la misère, les Européens sont largement favorables à leur accueil. Ça n'est pas ça qui est... bien sûr, il y a des formes de rejet qui relèvent du racisme et que l'on peut observer ici ou là. Mais dans les grands mouvements d'opinion, ce que demandent les Européens, c'est la régulation et l'intégration. Mais ce n'est pas le refus de l'immigration, même s'il peut y avoir des discours là-dessus très radicaux.
Oui, et avec des facteurs, que ce soit la guerre, évidemment, au Proche-Orient, enfin des facteurs d'accélération des hostilités et hélas, souvent de façon absolument épouvantable. Pauline Schnapper, ce qui est fascinant, en effet, dans le cas britannique, c'est que on a tous admiré depuis des générations un système parlementaire extrêmement traditionnel et véritablement ancré dans les mœurs, avec un scrutin uninominal à un seul tour, qui a toujours favorisé le bipartisme. Et là, on voit ce système déborder sur la droite, pas du tout sur la gauche. Hein.
Si un petit peu aussi sur la gauche, c'est effectivement un système qui était fait pour deux partis, hein, on parlait d'un système à deux partis, avec un mode de scrutin qui fait que même avec 40% des voix, voire moins, c'était le cas donc des travaillistes l'an dernier, on peut emporter beaucoup de sièges, donc qui introduit une distorsion par rapport au nombre de voix.
Oui, mais ça,
qui
c'est sidérant, parce que Starmer a plus de 400 sièges.
Oui, a plus de 400 sièges,
il a eu 34%
des voix. 34%
des voix.
Voilà. Bah, c'est le mode de scrutin.
Oui, mais ça veut dire
mais
qu'il y a quand même
y a
là aussi
un problème. Il y a un problème quand il y a plus de deux partis qui recueillent beaucoup de voix. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Royaume-Uni. On a parlé de UKIP, enfin maintenant Reform. Mais on voit aussi cette fragmentation un peu à gauche, avec les libéraux-démocrates au centre-gauche. Le parti vert, qui était inexistant sur le plan électoral et qui commence à avoir quelques élus. Et donc, ce mode de scrutin devient très, très problématique. Et pour en revenir au populisme de droite, en effet, il a empêché pendant très longtemps que se développe vraiment un mouvement à l'extrême droite. On a même eu l'idée ou l'illusion que le Royaume-Uni était à l'abri de l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. En réalité, c'était pas tout à fait vrai, mais c'était masqué par ce mode de scrutin. Et on arrive exactement à ce que Dominique venait de décrire, c'est-à-dire le moment où un mode de scrutin passe de empêcher le développement de l'extrême droite à le favoriser. C'est-à-dire au-delà de 30% dans les sondages. Au contraire, c'est un marchepied pour l'extrême droite.
Et alors, ce qu'on a vu et qui était vraiment saisissant, parce que les Britanniques, contrairement à nous, n'ont pas la culture de la manifestation. Et donc, on a vu le 13 septembre dernier, à Westminster, un ancien repris de justice d'extrême droite, il faut bien le dire, qui s'appelle Tommy Robinson, arriver à agglomérer plus de 100 000 manifestants, et avec Elon Musk en direct, en vidéo, sur grand écran, disant « Allez-y les petits gars, en gros, il faut casser le système ». Donc là, on trouve quand même l'ingérence américaine, à la fois le trumpisme et évidemment les algorithmes qui accélèrent tout ça.
On retrouve tout ça un petit peu séparé de Farage, qui a toujours pris ses distances vis-à-vis de...
Oui, parce que Musk trouve que Farage n'est pas suffisamment obéissant.
Et puis qui continue de jouer un peu la carte du RN, c'est-à-dire la carte de la respectabilité relative, mais tout de même essaye de jouer cette carte-là, alors que ces mouvements, ces réseaux sociaux, Musk et Trump ne sont pas très populaire auprès des électeurs. Et là, j'en reviendrai aussi à la distinction que vous aviez faite entre les gens qu'on voit, qu'on entend, et puis l'électorat. L'électorat est anti-immigration. L'électorat est quand même sorti dans la rue ce jour-là, hein, il faut bien le dire.
Et avec des drapeaux.
Avec des drapeaux anglais et britanniques. Il y a tout un jeu en ce moment et tout un conflit autour de l'usage du drapeau. Entre une extrême droite radicalisée, des électeurs mécontents et un gouvernement qui veut récupérer son drapeau, si je puis dire. Il dit le drapeau n'appartient pas à l'extrême droite, le drapeau c'est donc qui joue aussi la carte d'un patriotisme
modéré. Et le Premier ministre qui au Congrès travailliste en retrouvant enfin de l'énergie
a distribué des drapeaux.
Et en disant, il faut sauver l'âme Royaume-Uni.
Donc, il se joue beaucoup de choses en ce moment. Mais c'est vrai que ces 100 000 personnes dans les rues Londres, il faut vraiment souligner ce côté sans précédent d'une telle manifestation. C'était tout à fait étonnant et ça a été un gros choc pour la classe politique traditionnelle, j'allais dire.
Jacques Rupnik, on a vu en Pologne, aux élections présidentielles de juin dernier, on a vu là une ingérence très directe du parti MAGA, de Trump et de Vance et de certaines fondations américaines. On a vu l'élection avec une toute petite marge de Karol Nawrocki, qui est donc l'homme de Kaczynski, l'homme du parti de droite polonais. Et en fait, aujourd'hui, il fonctionne en cohabitation, qui en France est un système qui exerce une forme de nostalgie, pratiquement. Comment t'expliquer, donc de la Pologne en gros à la Roumanie, la manière dont le modèle trumpiste, où l'ingérence des idéologues d'outre-Atlantique fonctionne?
Alors, d'une part, il y a un vieux héros du nationalisme. L'idéologie dominante depuis le XIXe siècle, c'était le nationalisme. Ce nationalisme était considéré comme une force de résistance face à la mainmise de l'Union soviétique, du bloc soviétique, surtout en Pologne, l'alliance nationalisme et identité religieuse, catholicisme. Nationalisme et catholicisme comme, disons, deux éléments de résistance. Évidemment, on s'interrogeait, mais comment vont ces deux forces vont-elles se comporter dans la transition à la démocratie ? Et la surprise, parce qu'il y avait beaucoup de pessimistes à l'époque, c'était que la transition à la démocratie a absorbé en quelque sorte ces deux forces avec justement une dimension européenne. L'idée, c'était nous nous émancipons de la tutelle soviétique, nous rétablissons la Pologne et nous retrouvons un ancrage. La Pologne, longtemps éclipsée du jeu européen, on pourrait comparer ça à l'Espagne. Il y a deux pays comme ça, Espagne, Pologne, qui, après une longue éclipse, retrouvent leur place en Europe. Ça a pu jouer pour certains. Pour les Tchèques aussi, il y avait quand même le discours de Václav Havel qui liait le narratif européen à 89, à la transformation démocratique, les valeurs et l'ancrage démocratique qui devait être au sein de l'Europe. Donc il y avait cette phase-là. Je crois que cette phase est plus ou moins terminée. Orban a été, en ce sens-là, le précurseur, mais les uns après les autres retrouvent maintenant une réaction contre la tutelle ou l'ingérence européenne. Il y a le souverainisme qui revient. Ils ont été privés de souveraineté pendant un demi-siècle sous le nazisme, puis le communisme. Ils l'ont recouvré pour immédiatement la partager au sein de l'Union européenne. Et il y a maintenant tout un courant, les trumpistes en gros, disons-le comme ça, qui est un courant souverainiste dur.
Et mais avec les subventions européennes, donc alors, ils ne peuvent pas se passer.
Oui, alors c'est pour ça que leur souverainisme n'ira pas au-delà de certaines limites. Ils ont des discours forts, mais ils n'imiteront pas le Brexit. À la fois parce qu'il y a des avantages. Si vous obtenez 3% de votre PNB en subvention européenne, ce qui est le cas de la Hongrie ou de la Pologne, vous hésitez à deux fois avant de claquer la porte. Donc ça, c'est un élément. Et puis, il y a quand même la Russie à l'Est. Il y a la guerre. Et donc, ça a un effet. Oui, vous êtes en colère, vous voulez des changements, vous êtes très hostile à tout. Vous êtes hostile au libéralisme politique qui est perçu comme une contrainte, la séparation des pouvoirs, etc.
La justice.
Donc, il faut se libérer de cette contrainte. Il y a cet élément-là, et l'Europe fait partie de cette contrainte. Donc, elle est perçue comme un élément de. Et il y a d'autre part le libéralisme sociétal. Tout ce qui concerne, disons, les mœurs, voilà, le genre LGBT, tout ce que vous voulez, la variante...
Le woke.
Woke, voilà. Donc, c'est là qu'ils rejoignent le trumpisme, à la fois sur la souveraineté et sur le rejet du woke. Mais même avec tout ça, la guerre en Ukraine... Comme disent les Anglais, ça concentre les esprits. It concentrates the minds. Donc vous êtes concentré quand même sur savoir les limites à ne pas dépasser. Et donc, à la fois Trump libère le potentiel populiste radicalisé, parce qu'il est radicalisé. Babiche 1, c'était le populisme entrepreneurial. Babiche 2, avec les deux comparses qu'il amène au gouvernement, c'est autre chose. Et on voit donc une nouvelle constellation, Babiche, République tchèque, Fico en Slovaquie, Orban en Hongrie, et il y a aux portes du pouvoir en Autriche, il y a Kickl, avec le parti qui se dit des libertés et qui est en fait un parti autoritaire nationaliste.
Mais l'Autriche, l'Autriche, c'est intéressant parce que c'est l'extrême droite qui a gagné les dernières élections, mais qui n'a pas pu former, n'a pas trouvé de compromis avec d'autres partis indispensables. Et donc, c'est le parti du centre qui a formé une coalition gouvernementale.
Oui. Alors, ils ont fait une coalition. Ça, c'est une grande spécialité longtemps autrichienne. Les deux grands partis s'associent au pouvoir. Ça a des limites parce que ça encourage justement la frustration populiste. Et il faut rappeler quand même que les Autrichiens ont été les premiers à rompre le tabou de l'alliance de la droite modérée avec l'extrême droite. Schüssel, en 2000, Schüssel et Haider étaient pour la première fois, avaient proposé cette coalition. C'était un tollé en Europe. Ils étaient ostracisés, personne ne voulait leur parler. Il y avait une commission spéciale au sein de l'Union européenne pour mener l'enquête. Est-ce que l'Autriche est encore une démocratie? Vous voyez le chemin parcouru.
Hans Stark, en Allemagne, et c'est absolument spectaculaire, cette extrême droite dont vous nous expliquiez tout à l'heure l'ascension lente et semble-t-il irrésistible, en fait, elle est divisée aussi sous la pression de la guerre en Ukraine et sous la pression d'un héritage idéologique qui entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne n'est pas le même.
En effet, l'AfD était au départ quand même plutôt un phénomène est-allemand qui se nourrit des frustrations des Allemands de l'Est par rapport à la façon avec laquelle on a réalisé l'unification en 1990 et leur sentiment d'avoir finalement, sous une forme ou d'une autre, occidentalisé contre leur volonté. J'aime pas le terme annexé qu'utilise Mélenchon à ce propos-là, donc c'était pas évidemment pas une annexion. Mais en tout cas, ils ont quand même dû se fondre dans le modèle ouest-allemand, ce qui leur très peu plus, et même selon les sondages qu'on a vus très récemment, le 3 octobre, pour le 35e anniversaire de l'unité allemande, les sondages montrent que 2 Allemands de l'Est sur 3 estiment qu'il n'y a pas de nation allemande. Toujours
et,
pas.
Et donc et là, l'AfD, à l'Est, elle est plutôt pro-russe.
L'AfD à l'Est renoue avec les réflexes de l'ancien parti communiste est-allemand, le SED, qui était très soumis au pouvoir soviétique. Et donc les Allemands de l'Est estiment qu'avec les Russes, finalement, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé pendant la guerre froide. Les soldats russes étaient tout à fait corrects, ou les soldats soviétiques. Les Allemands
c'était
de l'Est...
C'était pas l'idée d'Angela Merkel, hein, parce qu'un soldat russe lui avait volé sa bicyclette.
Je sais pas trop. Mais en tout cas, les Allemands de l'Est ont beaucoup profité aussi de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, qui arrive quand même dans le Mecklembourg-Vorpommern, et donc la ville de Schwerin est à une plaque tournante pour le gaz russe qui devait ensuite donc être reparti en Allemagne. Bref, les Allemands de l'Est ont un tropisme très très prononcé pour la Russie, pour l'arme russe entre guillemets, pour Poutine, pour son régime, pour tout ce que représente Poutine, y compris au niveau de son illibéralisme, donc et donc pour son autoritarisme, et donc les Allemands de l'Est souhaitent s'orienter vers la Russie. D'ailleurs, l'AfD avait publié en 2024, aux élections européennes, un programme qui préconise non seulement la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, mais son entrée dans l'Organisation pour la coopération de Shanghai. Donc ça veut dire l'orientation vers la Russie d'un côté et vers la Chine de l'autre, ce qui fait sens évidemment du point de vue économique et énergétique. Maintenant, l'AfD en Allemagne de l'Ouest a plutôt suivi ce mouvement pendant de longues années, mais maintenant que Trump est revenu au pouvoir et que le mouvement MAGA s'ingère dans les affaires allemandes et qu'il y a de plus en plus de liens entre le mouvement MAGA d'un côté et l'AfD de l'autre, et que Trump a même si quelques succès maintenant, donc par exemple Gaza, donc il a quelque part le vent en poupe, en tout cas du point de vue dans la vision des populismes de droite, maintenant ce sont les États-Unis qui deviennent le grand modèle, et donc à l'ouest, l'Allemagne, enfin l'AFD, pardon, l'AFD préconise un rapprochement beaucoup plus prononcé avec le mouvement MAGA, avec le mouvement trumpiste, mais c'est évidemment aussi au détriment de l'Europe. On est dans les deux cas, que ce soit vers la Russie, la Chine ou vers les États-Unis. En tout cas, c'est une attitude de traite, volonté de sortie de la construction européenne qui se profile ainsi, en tout cas du point de vue de l'AFD.
Mais Hans, s'agissant des solutions, parce qu'on comprend bien que de l'Est à l'Ouest de l'Europe, en y incluant évidemment le Royaume-Uni, on voit bien que les ingrédients sont partout les mêmes. Une situation économique et sociale préoccupante, partout en fait.
Oui.
Le problème de l'immigration qui peut prendre des expressions différentes, et surtout au Royaume-Uni, où il y a quand même une tradition impériale, si j'ose dire, d'immigration indo-pakistanaise en particulier. Mais enfin, on voit bien que les ingrédients sont les mêmes. Mais est-ce qu'il y a des solutions qui sont exprimées, façonnées en quelque sorte par ces mouvements populistes, et d'abord par l'AFD? Est-ce que l'AFD propose des solutions?
L'AFD ne propose rien du tout. L'AFD critique. L'AFD souhaite peut-être même une sorte de changement de régime. C'est en tout cas ce que laisse entendre le volet le plus extrême, qui s'appelle l'aile, la flügel, au sein de l'AFD. Ils sont proches d'un mouvement extrémiste qui s'appelle les citoyens du Reich, qui est nostalgique, non pas du Reich nazi, mais du Reich antérieur, donc de l'Allemagne impérialiste, l'Allemagne de Guillaume II. Et l'AFD, c'est toute cette mouvance d'extrême droite qui gravite autour de l'AFD, dont l'AFD se nourrit, elle s'en agrège, et donc elle absorbe tout cela pour avoir par la suite en réalité aucun programme d'un point de vue économique et politique, c'est-à-dire ils n'ont pas pour l'instant en tout cas de propositions concrètes, et ils ne se positionnent pas non plus comme étant les véritables démocrates ou les véritables républicains comme le fait le Rassemblement National en France qui dit que les gaullistes finalement c'est nous. Donc en Allemagne, l'AFD préconise une rupture sans qu'on sache vers où cette rupture devait amener les Allemands.
Valérie Niquet, brièvement, cette idée impériale, bon, les Japonais ont un empereur, est-ce que le modèle Trump, l'homme fort, fait sens dans le contexte japonais, sachant évidemment la dépendance du Japon en termes de sécurité nationale, qui est encore plus évidente que, si j'ose dire, que pour nous?
C'est pas vraiment l'homme fort, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt un parti qui apporte des solutions. Le PLD ne le fait plus, y compris au niveau économique, alors que c'était sa grande force. C'est-à-dire que beaucoup étaient tentés par d'autres expériences, mais se disaient le PLD, lui, maintient un développement économique suffisant et stable pour le Japon. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est là qu'évidemment est la grande question. Et sur l'immigration, pour en revenir aux solutions, il n'y en a pas, puisqu'il y a très peu d'immigrés. Un vieillissement de la population absolument visible à l'œil nu, véritablement d'une année à l'autre, c'est impressionnant. Simplement la peur des touristes, mais qui ont eux-mêmes été appelés par Abe et le parti libéral-démocrate, qui pour des raisons économiques voulait jusqu'à 60 millions de touristes l'année prochaine, qui évidemment se concentrent tous aux mêmes endroits. Donc les solutions, on ne les voit pas non plus.
Dominique Régnier, on arrive vers une conclusion extrêmement provisoire de cette conversation. Il y a un récit Meloni qui circule en Europe. Giorgia Meloni serait en fait l'exemple à suivre, c'est-à-dire de la représentante d'une tradition très à droite en Italie, carrément fasciste, néo-fasciste, mais ce ne sont plus les termes qu'on emploie à son sujet, alliée à un pragmatisme évident, puisqu'elle a fait entrer, depuis 3 ans, c'est très rare en Italie qu'un gouvernement tienne aussi longtemps, mais elle a fait rentrer, je crois, plus de 400 000 immigrés, mais une immigration choisie. Est-ce que ce récit d'un modèle Meloni peut prendre plus largement en Europe?
Alors, Meloni, en tout cas, sur la question de l'immigration, a vraiment mis en place un système, on va pas le détailler peut-être, mais très efficace, qui pourrait inspirer d'autres pays. Je veux juste dire que les immigrés sont accueillis sur un contrat de travail à durée déterminée. Ce sont des saisonniers principalement. Il n'y a pas de regroupement familial. L'accord passé avec les pays de provenance, c'est qu'on les expulse aussitôt qu'il y a un problème et les pays de provenance doivent les accepter. Enfin, il y a toute une politique qui a trouvé un point d'équilibre intéressant. Mais le cas Meloni, c'est le cas du populisme qui arrive au pouvoir, qui subit une métamorphose par l'exercice du pouvoir, mais qui, d'une certaine manière, probablement s'institutionnalise. Et ça, c'est un grand sujet sur le populisme dont nous avons parlé, parce qu'il y a des pays où, sentant venir la défaite, je pense à la Hongrie, par exemple, enfin, on peut commencer à mettre en place un système qui empêche les adversaires de gagner une élection. Ou encore le modèle le plus pur, c'est le 6 janvier 2021, c'est Donald Trump qui est défait, qui refuse la défaite. Donc c'est un peu l'interrogation sur ce mouvement qui monte. Et si je puis me permettre, je termine là-dessus, je reviens sur un mot que vous avez prononcé au début, fièvre populiste, Christine Ockrent. Je pense qu'une fièvre, c'est nécessairement de courte durée. Nous sommes dans un processus de mutation. C'est une transition politique qui affecte l'Europe et c'est peut-être une transition autoritaire. On est peut-être dans un mouvement de grande ampleur. Il est certain en tout cas que ça ne va pas passer. On ne le verra pas passer, moi je crois en tout cas.
Donc c'est plus qu'une fièvre.
Ah, c'est beaucoup plus qu'une fièvre, c'est installé. Ça fait 30 ans qu'on peut mesurer ça et à chaque année c'est un peu plus fort.
Pour refroidir les passions, Dominique, allons vers le nord. Parce que la méthode scandinave... Ce sont des pays dont on parle assez peu, encore une fois, politiquement. Alors, ils sont peu nombreux, mais on voit, en fait, une culture du compromis qui fait qu'il y a, comme au Danemark, une première ministre centriste qui s'est alliée avec un mouvement beaucoup plus à droite, sinon même d'extrême droite, qui n'est pas, je crois, à l'intérieur du gouvernement, mais qui sert d'appui parlementaire. Et je crois qu'en Suède, c'est autre chose, je crois que l'extrême droite est carrément dedans. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une méthode scandinave de culture de compromis pour intégrer en fait ces courants qui sont beaucoup plus à droite que l'habitude qu'on peut avoir, en avoir un peu plus au sud.
Alors au Danemark, Mette Frederiksen est social-démocrate.
Oui, ben justement, c'est d'autant plus intéressant.
Et elle a combattu la politique anti-immigration pour aller vite de la droite, appuyée sur les populistes, avant de s'apercevoir que son parti allait disparaître, concurrencé par le Parti du peuple danois de droite. Elle a adopté la politique anti-immigration, je vais très vite, hein, du Parti du peuple danois et de la droite danoise. Elle l'applique, elle l'a même précisé, affermi. Elle a gagné le pouvoir, elle a gardé le pouvoir. Et c'est le modèle absolument fascinant d'un parti social-démocrate qui réussit à rester au pouvoir sur des principes de valeur, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais qui l'amène à adopter une politique qui est probablement la plus stricte de l'Union européenne. Donc c'est une mutation là de la gauche. Et c'est un modèle politique, là, le Danemark. Peut-être que les Suédois vont l'adopter maintenant, mais les Suédois, c'est l'exemple du pays qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire et qui s'est trouvé débordé par une immigration qui a finalement provoqué une sorte de crise historique et qui cherche aujourd'hui à adopter le modèle danois. Mais ils vont avoir beaucoup de difficultés, il faudra beaucoup de temps pour retrouver une forme d'équilibre en Suède. Et je voulais citer la Norvège. Parce que la Norvège ne va pas si mal. Le Parti du Progrès.
Les élections ont eu lieu il y a quelques semaines.
Le Parti du Progrès, poussé notamment par les jeunes, est le deuxième, quasiment à égalité avec le premier. Et c'est ce qu'il faut insister.
Le Parti du Progrès, il se situe où ?
Populiste, de droite. Mais il faut insister sur ce point, Christine Ockrent. Les variables économiques et sociales ne sont pas déterminantes autant que les variables identitaires. On l'a mesuré de toutes les façons possibles, tous les politologues ont fait cette mesure. C'est l'identité qui détermine ces mouvements plus que le reste.
Eh bien, merci, merci à tous les cinq pour ce tour du monde, en quelque sorte, de ce qui va au-delà de la fièvre populiste. Merci Dominique Régnier. Je rappelle les travaux de la Fondapol et en particulier cette enquête qui est parue l'an dernier, Les Européens abandonnés au populisme. Jacques Rupnik, vous avez publié un ouvrage sur l'onde de choc tchécoslovaque. Ça remonte à 68, mais c'est un très très beau souvenir pour beaucoup d'entre nous, donc publié par l'Institut d'études slaves. Pauline Schnapper, aux éditions La Découverte, il y a en 2022, La politique au Royaume-Uni. Valérie Niquet, Vous avez publié chez Talendier plusieurs ouvrages, d'ailleurs, notamment sur l'Indo-Pacifique, qui est très intéressant. Mais là, je cite « Le Japon en 100 questions, un modèle en déclin ?» point d'interrogation. C'était en février de cette année. Et Anne Stark, un papier sur l'Allemagne face à l'Amérique de Trump, dans la revue L'Allemagne aujourd'hui, dans le numéro d'avril-juin 2025. Voilà, la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud bien sûr, à la technique Éric Perruchot-Triboulet et Jean-Guilain Meige. Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission avec la documentation de Radio France. Et voici Marina Carrère d'Encausse et ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.